live studio audience.
C'est la sortie de cet été. Hein. Après Oppenheimer, Christopher Nolan s'attaque à un monument, l'Odyssée d'Homère, un blockbuster très attendu qui est sorti cette semaine. Lise, vous nous dites tout sur ce que vous en avez pensé et sur les polémiques qui entourent le film.
Absolument, Blaise. D'abord, la première vedette du film, c'est son ampleur. Avec un budget de 250 millions de dollars et un casting 5 étoiles, l'Odyssée justifie évidemment de se déplacer au cinéma. Alors, dans le rôle d'Ulysse, on a Matt Damon, Tom Holland interprète son fils Télémaque, Anne Hathaway et Pénélope, sa femme qui l'attend à Ithaque, et Zendaya incarne la déesse Athéna. Autour d'eux, une autre distribution secondaire impressionnante, Robert Pattinson, Charlize Theron ou encore Elliot Page. On a aussi des décors impressionnants avec un tournage mené en Grèce, au Maroc, en Italie, en Islande et en Écosse. Nolan a vraiment voulu retrouver la dimension physique du voyage. Pas question de filmer deux comédiens devant un fond vert, ni d'imaginer une tempête, un cyclope ou une mer déchaînée. Les bateaux sont réellement sur l'eau, les corps affrontent les éléments et les paysages n'ont pas été fabriqués par ordinateur. La séquence du cheval de Troie est elle aussi particulièrement réussie. Nolan revient à la matérialité de cette ruse bien connue des soldats grecs enfermés dans une structure de bois, condamnés au silence, incapables de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Une image qui est entrée dans la légende depuis et qui est devenue dans ce film une expérience de guerre assez concrète et angoissante. Le film est également présenté comme le premier long métrage tourné intégralement avec des caméras IMAX et ça se voit, la mer est immense, inquiétante, c'est presque un personnage du film. D'ailleurs, Nolan ne nous épargne rien, il a choisi de redonner au voyage d'Ulysse ce que les livres scolaires lui avaient parfois retiré, une violence, une saleté, une peur et un épuisement du personnage principal. Visuellement, l'Odyssée est donc une expérience spectaculaire et parfois même proche de l'horreur, ce qui n'est pas à mettre du côté de ses qualités. Le film retrouve quelque chose de très primitif, la peur de l'inconnu, des dieux, des monstres, mais aussi de ce que l'homme peut devenir lorsqu'il n'existe plus aucune règle pour le retenir.
Le récit d'Homère n'était pas raconté de manière linéaire. Une grande partie de ses aventures nous parvient ensuite par ses propres récits. Cette structure faite de souvenirs, de récits enchâssés et de temporalités différentes correspond parfaitement au cinéma de Christopher Nolan.
Oui, pour une fois, son goût pour les chronologies éclatées ne semble pas plaqué artificiellement sur l'histoire, même si elle n'est pas du goût de tous. Elle était déjà présente dans l'œuvre d'Homère. Nolan n'a donc pas nolanisé l'Odyssée. Il a découvert qu'Homère, après, avec 3000 ans d'avance sur lui, racontait déjà les histoires un peu comme lui. Le montage fait aussi dialoguer plusieurs attentes. On voit qu'Ulysse tente de rentrer chez lui, que Pénélope tente de préserver son royaume et en même temps que Télémaque part à la recherche d'un père qu'il connaît à peine. Ça n'est plus seulement un voyage géographique. Chacun cherche à trouver une place dans cette famille qui risque de ne plus exister, en espérant bien sûr que ses membres seront enfin réunis. Personnellement, ce système de flashback ne m'a pas dérangé, sans doute aussi parce que je connais l'Odyssée quasi par cœur, mais je comprends que ceux qui connaissent moins bien l'histoire aient eu du mal à s'y retrouver.
Autre qualité du film saluée par la plupart des critiques et vous-même Lise, il est très ancré dans le réel. Christopher Nolan ne présente pas Ulysse comme un super-héros antique. Il montre un homme intelligent, rusé, mais aussi orgueilleux, brutal et parfois moralement ambigu.
Oui, Nolan s'est inspiré notamment de la traduction anglaise de l'Odyssée, publiée en 2017 par la spécialiste des lettres classiques Emily Wilson. Dès le premier vers, elle qualifie Ulysse de « complicated man », un homme compliqué. Cette expression résume parfaitement le projet. Ulysse n'est pas seulement celui qui affronte des monstres comme le cyclope, les géants ou les sorcières Circé et Calypso ou même les sirènes, même si, bien heureusement, on retrouve toutes ces étapes bien connues de la vie d'Ulysse dans le film. Mais contrairement à nos souvenirs de classe, Nolan montre très souvent qu'à son avis, Ulysse provoque lui-même les catastrophes qui lui arrivent. Alors, ça permet à Matt Damon un rôle très puissant, car il ne joue pas Ulysse comme une statue grecque, mais comme un homme abîmé qui avance parce qu'il ne sait plus quoi faire d'autre. Sa transformation est autant morale que physique. Plus le voyage progresse, plus le chef glorieux de la guerre de Troie disparaît derrière un homme épuisé et vieilli qui veut simplement revoir son foyer. Nolan donne ainsi au récit une dimension presque universelle. Comment rentrer chez soi après avoir vécu l'extrême? Et que signifie encore rentrer lorsque ni celui qui revient ni celui qui l'attend ne sont restés les mêmes? On sent bien d'ailleurs une dimension très anti-militariste dans le film. Derrière les aventures d'Ulysse, l'Odyssée raconte le retour impossible d'un soldat. Ulysse a quitté Troie, mais Troie ne l'a pas quitté. Il ramène avec lui la violence, la culpabilité et les morts. Le sujet n'est donc pas vraiment comment rentrer chez soi, mais plutôt peut-on redevenir celui qu'on était avant la guerre? Une interrogation qui évidemment prend tout son sens en Ukraine comme en Israël notamment. Autre réussite, le film ne traite pas les dieux comme des simples super-héros dotés de pouvoirs naturels. Leur présence reste parfois incertaine. Est-ce qu'ils interviennent vraiment dans la vie des hommes ou est-ce que les personnages donnent-ils le nom d'un dieu aux forces qu'ils ne comprennent pas? Nolan entretient cette ambiguïté et c'est intéressant. Athéna notamment n'est pas seulement une déesse qui apparaît pour distribuer des solutions. Elle représente l'intelligence, l'intuition et cette voix intérieure qui pousse Ulysse a préféré la stratégie. Cette manière de filmer le divin correspond bien d'ailleurs à la perception antique. Les dieux ne vivaient pas dans un univers séparé des hommes. Ils étaient sincèrement dans le monde humain, influencés leurs décisions. On peut saluer aussi le travail du directeur de la photographie et le fait que la mer est véritablement très bien filmée. Plus Ulysse tente de rentrer chez lui, plus Ithaque devient une idée, presque une croyance à laquelle il doit se rapprocher. Le film réussit à rendre accessible un texte, l'Odyssée, sans le réduire à un divertissement pour adolescents. Personne n'a besoin d'avoir relu les 24 chants d'Homère pour rentrer dans la salle. Nolan conserve les grands épisodes et les termes essentiels, mais en leur donnant une lisibilité contemporaine. Au chapitre des qualités, en résumé, on a donc une bonne construction narrative héritée d'Homère, un montage réussi entre Ulysse, Pénélope et Télémaque, un bon réalisme sur les voyages, une mise en scène intéressante, quoique un peu effrayante, des célèbres épisodes mythologiques, une complicité morale pour Ulysse, la réflexion sur la guerre et le retour des combattants, qui est ô combien importante dans le monde d'aujourd'hui, la photographie très réussie, et une musique pas trop mal, quoique pas indispensable. Et enfin, la capacité à rendre Homère accessible sans le rendre simpliste, c'est déjà pas mal.
On comprend, Lise, que vous avez aussi apprécié que le film pose des questions philosophiques passionnantes, comme souvent chez Christopher Nolan, dans The Dark Knight, le Batman, Interstellar ou encore Inception, par exemple. Malheureusement, vous nous dites que cette Odyssée n'est pas exempte de défauts.
Et oui, et le premier, Blaise, c'est la longueur. Le film dure près de 3 heures et Nolan semble vouloir faire entrer toute la mythologie grecque, Homère et toutes ses obsessions personnelles dans un seul film. On aurait largement pu se passer de 45 à 60 minutes de pellicule sans vraiment en perdre la substance. En plus, à part des mouvements saisissants, on a des passages explicatifs franchement pesants. Les Grecs d'Homère ne parlaient évidemment pas l'anglais, mais bon, on peut passer dessus. Par contre, quelques répliques très contemporaines peuvent casser la magie et donner l'impression qu'Ulysse ne cherche pas Ithaque, mais l'Amérique d'aujourd'hui. Et ça, c'est moins justifiable. Et enfin, cette volonté de rendre l'Odyssée accessible à notre époque constitue aussi l'une des limites du film. À force de faire d'Ulysse un soldat traumatisé cherchant la rédemption, Nolan finit par simplifier un peu trop à un personnage qui est plus complexe encore chez Homère. L'Ulysse antique est rusé, menteur, séducteur, manipulateur, mais aussi drôle et formidable conteur. Et celui de Nolan, en revanche, est beaucoup plus grave, tourmenté, presque plus moralement présentable. Il a gagné en humanité moderne, mais c'est quand même moins sympathique. Et c'est d'ailleurs un défaut général du film, son sérieux permanent. Nolan filme Homère comme s'il s'agissait d'une cérémonie solennelle de 3 heures, alors que l'Odyssée contient aussi du plaisir, de la sensualité, de l'ironie, de la ruse et même une forme de comédie totalement absente de ce film. Ulysse n'est pas juste un vétéran hanté par la guerre, c'est un baratineur et cette légèreté disparaît totalement du film. Le film est immense, mais son imaginaire semble parfois limité. Nolan excelle à rendre les choses concrètes, mais il est moins convaincant lorsqu'il doit abandonner le réel pour entrer dans le fantastique. Le casting prestigieux produit d'ailleurs un curieux effet. Nolan a réuni tant de vedettes que chacune de leurs apparitions semble annoncer un événement. Et après, plusieurs personnages sont beaucoup trop peu développés pour justifier une telle distribution.
On passe maintenant aux polémiques en Grèce et ailleurs dans le monde sur ce fameux casting et sur l'inexactitude historique de plusieurs choses dans le film.
Oui, le premier sujet de polémique a été le choix de Lupita Nyong'o, l'actrice noire d'origine kényane et mexicaine, pour interpréter Hélène de Troie et sa sœur Clytemnestre. Certains commentateurs américains ont dénoncé un changement ethnique artificiel et une volonté de réécrire l'Antiquité au nom de la diversité, idem avec Zendaya dans le rôle d'Athéna ou Sidon joué par un acteur indien. Certains y voient un exemple de casting inclusif, d'autres une décision artificielle, historiquement peu cohérente avec l'univers grec du récit. On peut donc contester ce choix sans que cette objection soit nécessairement raciste. La vraie question est artistique. Nolan a-t-il choisi Lupita Nyong'o parce qu'elle apportait quelque chose au personnage ou parce qu'il souhaitait afficher une distribution plus diverse, d'autant qu'elle apparaît seulement 3 minutes chrono à l'écran? C'est précisant là que surgit l'accusation de wokisme, le sentiment que la cohérence de l'univers présenté aurait été sacrifié à une volonté contemporaine de diversité.
Et justement, plusieurs critiques ont aussi regretté que certains personnages féminins restent en retrait par rapport à la richesse du texte d'Homère.
Oui, et le paradoxe, Blaise, c'est que finalement, il a eu les deux critiques. Un, d'être trop féministe et d'autre, de ne pas l'être assez. Le film affiche pourtant Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Samantha Morton et Lupita Nyong'o. Mais ça demeure très largement une histoire d'hommes, de guerre et de fraternité masculine. Même si Anne Hathaway donne à Pénélope une réelle force intérieure et quelques discours qu'on pourrait dire féministes. L'Odyssée a été accusée avant sa sortie. Et maintenant, on lui reproche aussi de ne pas accorder assez de place aux femmes. Je suis plutôt dans la deuxième catégorie, mais je nuancerai le propos, ça n'est vraiment pas là que le film pêche.
Et visiblement, le pire, c'est la froideur. Le gigantisme technique peut paradoxalement tenir le spectateur à distance.
Et oui, car si Nolan nous fait admirer la fabrication du film, les paysages, les tempêtes, les milliers de figurants, etc., on a beaucoup de mal à ce que l'émotion circule. On est impressionné, certes, mais on aurait aimé être bouleversé. Je n'ai pas versé une seule larme devant le film et je peux vous dire que je pleure facilement au cinéma et encore plus dans Homer. C'est sans doute le personnage paradoxal de cette odyssée. Nolan nous fait ressentir l'immensité de la mer, mais pas la profondeur des êtres qui la traversent.
Et puis pour finir, malgré ses longueurs, malgré une certaine froideur et quelques choix contestables, le film de Christopher Nolan reste donc une œuvre spectaculaire, ambitieuse et profondément cinématographique.
Oui, je pense qu'il a effectivement des qualités, un sérieux qui étouffe l'humour, c'est dommage, une présence des dieux un peu trop réduite, une structure parfois trop épisodique, des personnages féminins moins riches que ce que ne laissait espérer le casting et une prouesse technique avec une distance émotionnelle. Mais quand même, ça donne plutôt envie de retourner au texte d'Homère, de voir ce qu'il a conservé, transformé ou abandonné en chemin. Ulysse a mis 10 ans pour rentrer à Ithaque. Christopher Nolan nous demande 3 heures de notre temps pour revenir sur son voyage. Et même si ça n'est pas toujours particulièrement fluide, ça mérite qu'on s'y embarque. Et ça reste un grand film de cinéma à voir absolument sur grand écran.
Recorded in front of a live studio audience.